les par actualité.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités de ce 22 novembre 2017. Hélène Denis avec vous et en manchette aujourd'hui, entreprise, inclusion, rime avec profit, conclut une étude. Le Conseil pour la protection des malades réclame une loi sur les soins de longue durée. La réforme de la santé faite sur le dos des personnes handicapées, dit ex aequo. Et aussi, la famille d'une personne déficiente intellectuelle demande de l'aide, des policiers honorés pour leur bravoure. Personnes handicapées, les oubliés du gouvernement Notley en Alberta. En entrevue, je reçois en studio Amélie Tremblay qui nous parle d'un guide qui s'intitule « Vivre avec une lésion médulaire » qui sera lancé demain à Montréal. Et aussi Bernard Oligny, directeur de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides qui nous parle de l'école de hockey adaptée. Entreprise inclusion rime avec profit, conclut une étude, c'est dans la presse.ca. Les entreprises inclusives avec les minorités visibles, les autochtones, les handicapés, la communauté LGBTQ et les femmes ont un meilleur rendement économique. C'est ce qui ressort d'une étude menée par le cabinet de services professionnels canadien Deloitte. Si votre entreprise respecte le ratio hommes-femmes et qu'elle est le reflet statistique des minorités visibles au pays, ce n'est pas assez selon ce rapport. Il s'agit d'actions cosmétiques. Les leaders d'entreprise doivent aller plus loin. Il faut clairement que les leaders reconnaissent que la diversité est un avantage versus quelque chose qu'il faut faire, explique Marc Perron, associé directeur Québec chez Deloitte. Il faut changer la culture de l'entreprise pour être capable de rassembler cette diversité-là, que les gens se sentent appréciés et valorisés dans leur diversité. Le rapport suggère aux entreprises de définir clairement les comportements inclusifs, de donner des formations en ce sens, d'inciter les leaders à montrer l'exemple et d'enlever le biais dans le processus de recrutement. Ceux qui forment les équipes en milieu de travail ont tendance à s'entourer de gens qui leur ressemblent et qui pensent de la même façon. Or, les sondages réalisés chez Deloitte de façon hebdomadaire démontrent que la diversité amène de meilleures performances. Le Conseil pour la protection des malades réclame une loi sur les soins de longue durée. Il manque de monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles on réclame une loi qui ferait un standard minimum au Québec, comme en Ontario et en Alberta, sur ce qu'on attend des organisations de soins de longue durée pour nos personnes âgées et les personnes lourdement handicapées qui sont hébergées, explique le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet. D'après M. Brunet, le personnel devrait être mieux encadré. Les règles élémentaires en management nous enseignent que moins quelqu'un reçoit une formation pour faire un travail, plus il devrait profiter de supervision. Même ça, ça a été coupé, conclut-il. Dans HuffingtonPost.ca, la réforme de la santé faite sur le dos des personnes handicapées, dit ex aequo. La réforme Barrette a entraîné une réduction du nombre de prestataires du soutien à domicile ainsi qu'à la qualité du service offert, estime un groupe de défense des droits des personnes handicapées. Le groupe ex aequo souligne, chiffre à l'appui, que le nombre de bénéficiaires de services de soutien à domicile est en baisse depuis plusieurs années. On doit de manière incessante rappeler la situation à ce gouvernement qui s'était pourtant présenté en 2014 comme celui qui allait investir dans le soutien à domicile, affirme Simon-Philippe Caron, agent de défense des droits chez ex aequo. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a réfuté ces allégations en marge d'une allocution plutôt devant la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Quand on regarde les chiffres, il y a une augmentation du nombre d'heures de service et le Québec est la seule province à avoir investi 100 % de l'augmentation des transferts fédéraux en santé au soutien à domicile, affirme-t-il. Or, ce n'est pas le nombre d'heures de service qui pose problème. Selon des chiffres obtenus par l'organisme, le nombre de personnes qui bénéficient de ces services a bel et bien diminué. Le rapport annuel de la protectrice du citoyen note que la diminution s'est poursuivie l'an dernier. D'importants problèmes sont d'ailleurs survenus à la suite de cette réforme. De moins en moins en mesure de répondre à la demande, des établissements éliminent des services, lit-on dans le rapport dévoilé le mois dernier. Mémo Québec nous invite au lancement du guide « Vivre avec une lésion médulaire », nouveau guide. Ça se passe à Montréal demain, 23 novembre. Et en studio, pour en parler, la principale artisane de ce guide, Amélie Tremblay. Bonjour, Amélie.
Bonjour, Hélène.
Merci d'être avec nous. Et je voulais avant tout savoir, qu'est-ce qu'une lésion médulaire?
En fait, une lésion médulaire, c'est une lésion à la moelle épinière, donc qui cause une paralysie totale ou partielle au niveau soit des jambes ou des bras et des jambes.
D'accord, merci. Et que contient le document?
En fait, le document, c'est 14 chapitres, donc c'est un guide qui s'adresse aux gens qui viennent d'avoir un accident ou qui viennent d'avoir une lésion médulaire. Principalement, ça parle de tout ce qui peut arriver après une lésion médulaire, donc autant comment fonctionne le système urinaire, comment adapter son domicile, le deuil à faire, les sports adaptés, où on trouve l'information, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est vraiment très, très varié.
Et pourquoi vous avez décidé d'écrire ce guide?
En fait, le guide existait déjà depuis 1996 chez Mémo Québec, mais ça faisait donc 20 ans qu'il avait été créé, puis il était dû pour un petit update, disons. Puis c'est un guide qui est très apprécié des gens depuis 20 ans, donc on l'offre aux gens qui viennent d'avoir leur accident en centre de réadaptation.
Il y a 20 ans, vous n'avez pas contribué à la rédaction, là, parce que vous êtes toute jeune.
Oui, non, il y a 20 ans, non, je n'étais pas là.
Mais vous l'avez lu quand même.
Mais je l'ai lu. En fait, quand on arrive chez Mémo Québec, c'est la première chose, on nous dit « lis la Bible ».
Ah
oui. Donc, c'est 500 pages.
Oh!
Donc, c'est la première chose à faire quand on arrive pour un peu mieux connaître qu'est-ce qu'une lésion médulaire.
Oui.
Puis c'est ça, c'est effectivement très efficace. Donc, je l'avais lu, je l'ai relu encore et encore. Et puis maintenant, au bout de 3 ans, travailler dessus...
Est-ce que vous seriez prête à dire que c'est une... ça a été revu, réédité? C'est mieux que la première édition ou pas nécessairement?
Oui, ben, je ne dirais pas nécessairement mieux, mais plus complet, surtout plus à jour. En 20 ans, il s'en est passé des choses. Donc, les cathéters, c'était pas la même chose. Le Viagra, le Cialis n'existait pas, là, t'sais, juste pour donner quelques petits exemples comme ça. Donc, ça a été complètement revu. On a rajouté 2 chapitres aussi. Tout a été relu par des professionnels de la santé de A à Z. On a changé des choses, enlevé, rajouté.
Comment vous avez travaillé? Vous n'étiez pas seule, là. Vous parlez de nous.
C'est moi qui coordonnais le travail, mais il y avait une trentaine de bénévoles du milieu de la santé, donc physiatres, urologues, infirmières, éducateurs spécialisés, vraiment des gens de tous les domaines. Donc, pour chaque chapitre, on le faisait relire par des professionnels. Par la suite, on le faisait relire par certains de nos membres qui ont une lésion médulaire, donc pour qu'ils nous donnent leur point de vue sur la question, bien entendu.
Les lieux placés pour en parler.
Effectivement. Puis ensuite de ça, on le faisait relire, donc une dernière fois par la présidente de notre CA, qui a elle-même une lésion médulaire et qui est Marie-Blanche Rémillard, qui est vraiment un as de la langue. Et on faisait réviser par-dessus ça. Donc vraiment, c'était
un très long processus. Un travail de recherche, un travail sérieux. Ça a pris combien de temps?
Depuis le moment où on m'a parlé du projet jusqu'à là, je dirais 3 ans. Après ça, c'est sûr qu'avec le milieu de la santé actuel, comme tous les professionnels étaient bénévoles, on a eu des retards, des longueurs. C'est sûr que d'avoir un physiatre qui est capable de lire un document, c'est pas nécessairement évident là, en dehors de ses heures de travail. Mais quand même, on a eu de l'aide. Donc, ouais, je dirais 3 ans de travail.
C'est un guide qui compte combien de pages?
550 pages.
Oh, oui. Oui. Alors, il faut... c'est pas une lecture de chevet. Ben oui, ça peut être une lecture de chevet. Oui. On y va chapitre par chapitre.
Oui.
Est-ce que le lancement qui s'est passé à Québec récemment, le 15 novembre, s'est bien déroulé?
Oui, tout à fait. Il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient là, beaucoup de gens du milieu, des membres. C'était vraiment bien.
Oui,
bien
puis là, il y en a un autre qui se déroule demain. Oui. Ça se passe où à Montréal?
C'est à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal. Donc, pour que ce soit accessible, bien entendu, pour nos membres.
Tout le monde est invité?
Tout le monde est invité, mais on vous demanderait de confirmer votre présence si oui. vous êtes là. Donc, au 514-342-7171.
Très bien. Et ça s'adresse à qui exactement, ce guide-là? Aux gens qui sont aux prises avec une lésion médulaire?
Oui, je dirais aux gens qui viennent d'avoir une lésion médulaire, aux gens qui en ont une depuis plus longtemps, à leurs proches aussi, beaucoup, c'est difficile parfois pour les proches, et aussi aux professionnels de la santé qui connaissent les lésions médulaires, mais aussi ceux qui sont nombreux et qui ne connaissent pas les lésions médulaires, mm-hmm. donc ça peut être intéressant
ouais.
de lire en partie, en tout ou en partie.
Et il coûte combien ce guide-là?
Et 30 $ pour nos membres, 50 pour les non-membres. Il y a aussi un site Internet donc, où il y a tout le contenu du
Ah oui,
guide.
On peut le télécharger?
Ben, en fait, c'est sur le site directement, donc pas besoin de télécharger. C'est gratuit pour nos membres, puis c'est 30 $ pour les non-membres.
Et puis
donc.
Le site, c'est moilepinière.com, c'est
non,
ça?
Non, ça, c'est le site de l'organisme. Le site, d'accord. Dit, ce sera lésionmédulaire.com. Donc, il est déjà accessible. Oui, c'est ça. Il est accessible en ce moment.
Et le lancement, donc, a lieu demain à la salle Saputo de l'IRGLM au 6300 Avenue Darlington. Est-ce que vous planchez sur d'autres choses qui concernent la santé?
Non, pas en ce moment, mais je sais que chez Mémo Québec, ils ont beaucoup de projets.
Oui?
Oui, oui, donc...
Vous serez présente au lancement demain?
Je vais être là au lancement
évidemment.
Demain, oui.
Amélie Tremblay, principale artisane du guide « Vivre avec une lésion médulaire », édition 2017.
Oui.
Merci beaucoup, puis... À la prochaine.
Merci beaucoup.
Bonne journée. Bon lancement demain. Dans le quotidien, la famille d'une personne déficiente intellectuelle demande de l'aide. Le Chicoutimien Jonathan Lapointe, un individu qui souffre de troubles mentaux, a effectué un autre passage devant le tribunal. Cette fois, il a été pris à montrer ses parties intimes devant des enfants. Son entourage demande de l'aide des intervenants sociaux afin de lui trouver une ressource. Le client de Maître Charles Quentin souffre du trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité, de troubles de la personnalité et du syndrome Gilles de la Tourette. Diagnostiqué d'une déficience intellectuelle assez importante, Jonathan Lapointe se promène entre l'hôpital, la maison de ses parents et la prison. Ce cas de déficience intellectuelle est d'une grande tristesse. Il est passé par plusieurs ressources régionales, mais sans succès. « J'ai besoin d'aide afin de lui trouver une ressource. Sa place n'est pas en prison ni à l'hôpital. Et il ne peut vivre chez ses parents car il est un cas trop difficile », précise Maître Charles Quentin. Depuis qu'il a été sorti du centre de réadaptation en déficience intellectuelle, à la suite d'événements malheureux, les intervenants ont décidé qu'à l'âge de 18 ans, il ne souffrait plus de déficience intellectuelle. Ça n'a aucun bon sens, note M. Simard. Nous avons besoin d'aide. Tout le monde semble s'en laver les mains dans la région. Lorsqu'il est en prison, il pleure. Les gardiens disent que ce n'est pas sa place, plaide le beau-père de Jonathan. En attendant, Jonathan Lapointe demeure derrière les barreaux jusqu'au moment où une solution sera trouvée. Sur le site de TVA, des policiers honorés pour leur bravoure, évacuer des aînés sur leur dos, se coucher sur une victime pour la protéger d'une pluie de tisons, entraîner une autre au sol pour l'extirper du brasier. Bravant les flammes, des policiers de Terrebonne ont sauvé la vie d'une quarantaine de personnes âgées coincées dans une résidence en flammes en juillet. Quand on est arrivé, il y avait de la boucane noire qui sortait des fenêtres. On s'est rapidement activé, se souvient le sergent Sébastien Berthiaume. Plusieurs policiers se sont précipités dans la résidence Oasis pour évacuer les locataires, tous à mobilité réduite. Sans équipement de sécurité ni masque, les patrouilleurs peinaient à respirer au cœur de cet incendie criminel. Dès qu'on entrait, on ne pouvait pas avancer à plus de 10 mètres dans la bâtisse. À deux ou trois reprises, j'ai dû en prendre en poche de patates sur mes épaules pour les sortir. « C'est plus rapide comme ça », explique l'agent Gabriel Côté-Gagnon, qui estime avoir effectué entre 8 et 10 allers-retours pour évacuer des aînés. Son superviseur, Jean-François Lacroix, a lui aussi effectué plusieurs sauvetages. Croyant que tous les résidents avaient été évacués, il est sorti à l'extérieur pour reprendre son souffle. Puis il a aperçu une dame en panique au deuxième étage qui tapait à grands coups dans une fenêtre. Accompagné de l'agent Côté-Gagnon, il a dû ramper au sol pour aller la chercher tant la fumée était dense. Les policiers David Alexander, Simon Fortin, Alexis Duchesne-Hamel, Patrick-Aimé Laliberté et Guillaume Lemay-Lelièvre seront aussi récompensés pour leur intervention cette nuit-là. Je joins maintenant Bernard Oligny, directeur de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides, pour parler de l'école de hockey adaptée de l'association. Bonjour, M. Oligny.
Bonjour, Mme Denis. Vous allez bien?
Ben oui, très bien. Merci. Et vous?
Oui, très bien. Merci.
Oui. Qu'est-ce qu'une école de hockey adaptée?
Alors, c'est une activité structurée adaptée pour répondre à des besoins d'une clientèle en situation de handicap qui ne peut pas s'intégrer dans une équipe régulière. Alors, elle est encadrée par des intervenants qui sont formés pour accueillir, développer les habiletés, bien entendu, des requiers qui ont une réalité qui leur appartiennent. Et en plus de ça, on offre un support clinique pour la mise en place d'outils d'intervention qui vont faciliter la compréhension et la participation. On parle, par exemple, de codes imagés, de vie, de routines imagées. Puis on a des interventions qui sont dédiées à certaines personnes qui ont un petit peu plus de difficultés à s'intégrer. Les profils de nos participants, c'est des jeunes. Des jeunes, des adolescents et des adultes, parce qu'on a les trois catégories,
ouais,
qui ont soit un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle. Et je vous dirais qu'on a des comorbidités qui sont présentes. Donc, on peut avoir d'autres types d'handicaps ou des problématiques qui sont liées. Comme on sait, par exemple, on a le TDAH, les troubles anxieux, des troubles d'opposition, des troubles d'apprentissage.
Est-ce que les règlements sont les mêmes? Est-ce que l'ajout est pareil?
Mais enfin, nous, on a deux dimensions. On a une dimension, dans un premier temps, qui est une école de patins avec équipement pour que les jeunes puissent apprendre à patiner. Et par la suite, on a notre école de hockey adaptée.
Oui.
Dans l'école de hockey, on développe les habiletés nécessaires pour participer à, mettons, un match de hockey. Donc, il y a toujours deux volets. Une dimension d'apprentissage d'habilité. Et par la suite, on termine toujours avec le dernier 20 minutes par un match de hockey entre deux équipes qui sont membres de l'école de hockey. Et c'est les mêmes règlements, effectivement, mais on est un petit peu plus patient dans l'application de certaines règles.
Est-ce qu'il y a plusieurs écoles de hockey adaptées dans le Québec?
De ma connaissance, on est la seule école de hockey adaptée, mais par contre, il y a d'autres clubs de hockey adapté pour le trouble du spectre de l'autisme qui s'est développé. Je dirais à deux autres endroits au Québec.
Oui, j'imagine que vous êtes populaire, sollicité.
Oui, je vous dirais qu'on est assez sollicité dans les Laurentides et qu'est-ce que je trouve formidable, c'est le support des parents parce qu'on permet aux parents de s'impliquer dans cette démarche-là. À l'école de patin, entre autres, j'ai des parents qui m'accompagnent dans le développement des habiletés-là.
Mm-hmm.
Et autant au niveau de notre école de hockey, où entre autres, j'ai quatre parents qui sont avec mon équipe sur la glace pour faciliter la compréhension et des fois, là, développer un peu plus une attention particulière sur un ou deux joueurs qui ont besoin de cette attention-là.
Oui. Vous avez parlé de personnes atteintes ou vivant avec le TDAH ou aussi de... Vous avez parlé aussi d'obésité morbide?
Je vous dirais qu'il y en a qui...
Parce que je me demandais qui pouvait s'inscrire à votre école.
Ben, je vous dirais que c'est des personnes qui sont âgées de 6 à, mettons, 22 ans,
mm-hmm,
qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Et quand on parle de comorbidité, c'est un terme clinique qui parle des problématiques associées à une déficience.
Ah bon,
alors, on parle, comme vous avez parlé, comme j'ai mentionné, un TDAH, soit avec hyperactivité ou impulsivité prédominante. On peut parler de troubles anxieux qui est très présent dans 82% de la clientèle ayant une situation d'handicap. On peut parler des troubles d'opposition, mais également des troubles d'apprentissage, des troubles du langage. Donc, il y a plusieurs situations qui demandent un regard bien particulier pour réellement favoriser le plaisir et la participation de cet athlète dans notre activité.
Oui, et pendant les classes, bon, les joueurs, vous les voyez évoluer, est-ce que vous pouvez détecter des joueurs qui pourraient faire partie d'une équipe de professionnels?
Bien, je dirais non. Pas pour notre clientèle. L'intention, c'est pas de développer des athlètes professionnels, mais réellement développer le plaisir. Très souvent, pour les personnes en situation d'handicap, c'est assez limité au niveau du choix d'activités, de loisirs physiquement actifs. Dans les Laurentides, nous, on a plusieurs activités. Mm-hmm. Notre école de hockey a maintenant 3 ans. Donc, on a passé notre phase d'enfant, en fait de bébé, puis maintenant, on est rendu dans l'enfance.
Oui.
Mais il y a beaucoup de besoins non identifiés dans les Laurentides. C'est pour ça qu'on a mis notre école de hockey sur place.
Oui, puis ça aussi, ça, j'imagine que ça aide aux interactions. C'est bon pour le côté le développement de la sociabilité, si je puis dire, là, les relations humaines. Ça fait sortir les gens de chez eux, de leur de leur bulle.
Oui, tout à fait. On voit que vous êtes un expert dans le domaine.
Pas vraiment, là, mais...
le volet de socialisation, c'est une dimension très importante. Briser l'isolement, c'est une dimension très importante également. Mais également, il y a d'autres habiletés transversales qui sont à mesure de se développer. Vous avez le sentiment d'appartenance, vous avez votre habilité à vous concentrer sur quelque chose, à comprendre des règles de jeu ou un code de vie. Vous savez, un code de vie, c'est un peu qu'est-ce qui nous permet de dire c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire.
Mm-hmm.
Pour certains jeunes... on parle de « tu peux pas garder la rondelle tout seul ». Moi, je fais une blague, je dis toujours « ceux qui mangent la rondelle, je vais vous emmener un assiette, un couteau ou une fourchette, c'est ça que vous allez faire ».
Alors, ça digère mal, hein?
Ça digère mal.
Ouais, ouais.
Donc, on apprend à travailler en équipe.
Oui,
On apprend à regarder les opportunités, on développe des stratégies, il y a les protocoles de fin de match. Les deux équipes, on fait la ligne, on se serre la main, on se tape la main. Donc, il y a toute cette dimension humaine qui est prise en place.
Un apprentissage à tout point de vue. Alors, M. Oligny, on aurait pu parler longtemps parce que vous avez une quarantaine d'années, pas vous, là, mais je ne sais pas quel âge vous avez, mais l'association a été fondée en 76.
Oui,
et puis, vous offrez des loisirs, aussi des activités en culture. On aura l'occasion de se reparler, j'en suis convaincue, mais pour l'instant, bien, je vous souhaite encore une fois une bonne continuation avec l'école de hockey qui existe depuis 3 ans. Je vous en souhaite longue vie, finalement.
Merci, puis si vous me permettez, je peux laisser un numéro de téléphone.
Avec plaisir.
Pour l'inscription pour la session du printemps, parce que cet hiver, c'est notre école de ski qu'on a.
Oui.
Alors, c'est dans le 450-431-3388 ou encore sur notre site web www.arlphl.org.
Merci Bernard Oligny, directeur de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides. Bonne journée.
Merci à vous, Mme Denis. Au revoir.
Personnes handicapées, les oubliés du gouvernement Notley en Alberta, c'est sur le site de Radio-Canada. Je vois des gens seuls, isolés, des gens en crise sous ce gouvernement, dit Leah McRory en retenant ses larmes. Des larmes de colère et de frustration face au traitement que réserve le gouvernement albertain aux personnes handicapées intellectuelles, un silence qu'elle perçoit comme un abandon. Il y a un mois, cette Edmontonienne, mère de 2 adultes handicapés, a vécu une crise familiale. Elle a demandé 5 heures additionnelles de soins au programme provincial qui offre des ressources personnalisées aux personnes déficientes intellectuelles et à leurs familles. Sa demande a été refusée. Son exemple, dit-elle, reflète un système en crise. Il y a une foule de personnes sur liste d'attente. On leur offre quelques heures pour faire diminuer les listes, mais si vous saviez à quel point quelques heures sont inutiles. Ce qui enrage cette mère, ce n'est pas seulement ce qu'elle voit comme les problèmes criants, mais surtout que les solutions sont connues depuis longtemps. En décembre 2015, le ministère des Services à la personne a lancé des consultations sur les normes nécessaires pour assurer la sécurité des personnes handicapées intellectuelles. Plus de 2000 personnes y ont participé. Les deux premières recommandations appellent à un examen en profondeur du programme accompagné d'une meilleure communication avec les communautés handicapées. Mais plus d'un an plus tard, aucun examen n'a été entamé. Beaucoup d'attentes avaient été placées dans ce gouvernement néo-démocrate, pour l'instant déçu. Les véhicules du transport adapté se refont une beauté. Ces véhicules transportent la clientèle des personnes handicapées sur les territoires de la MRC des Laurentides, la MRC des Pays d'en haut et les municipalités de Rivière-Rouge, l'Ascension, Nominenque et la Macasa. Le transport adapté étant offert à une clientèle avec un handicap, l'aspect humain du logo devait prédominer tout autant que celui de la mobilité. Transport adapté collectif des Laurentides, TALC, T-A-C-L, se dit heureux d'offrir une image dynamique et contemporaine à sa clientèle. Le service offert est disponible aux gens admis sur réservation seulement. Pour plus d'informations, on peut visiter le www.transportlaurentide.ca ou contacter le service à la clientèle au 1-800-717-9737 poste 1, 1-800-717-9737 poste 1. Lundi, on a pu joindre Joanne Boutin, conférencière et auteure de La maladie qui m'a donné des ailes, mais pas pour l'émission Par actualité telle que ça avait été prévu. Mais Mme Boutin a accepté l'invitation de participer à l'émission Accès libre animée par mon collègue Benoît Racette. Et j'en profite pour vous dire que son émission est maintenant à l'horaire, mais le lundi de midi à 13h30, 1h30 avant l'émission durait 30 minutes et c'était le mardi. Maintenant, c'est le lundi de midi à 13h30. Et si vous voulez écouter cette entrevue donnée par Joanne Boutin, vous pouvez aller sur notre site Internet, le site Internet de Canal M de Vues et Voix. Voilà, c'est tout pour les Paractualités. Merci à mes invités, Bernard Oligny et Amélie Tremblay. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Je vous retrouve demain. Merci d'avoir été à l'écoute.